Bonjour à toutes et à tous, c'est les chroniques financières sur CFM Rhodes, un programme proposé par Steve Bonneau. Salut Steve.
Salut David.
Tout va bien?
Oui, très bien, et toi?
Ouais, bah écoute, gentiment, ce soleil est là.
Bon, effectivement, c'est déjà une très bonne nouvelle.
C'est déjà énorme. Steve, on rappelle, tu es conseiller en investissement à ICA Finance dans le centre-ville de Rhodes.
Exact.
Alors, le soleil commence à briller là au-dessus de nos têtes. Sinon, avant qu'on s'attaque à notre sujet de la semaine, le soleil brille aussi sur les marchés en ce moment. C'est moyen, hein, c'est sans plus.
Oui, c'est... on va pas dire que c'est couvert, c'est entre
ouais.
deux.
Donc, voilà. Ouais, c'est un peu comme le ciel ces derniers jours. Moi, ce que j'ai entendu, oui, c'est l'histoire toujours des taux d'intérêt.
Ça reste... Tout le monde attend à ce que ça baisse. Ça baisse. Et pour l'instant, alors en tout cas aux États-Unis, c'est de plus en plus décalé.
Voilà,
dans le
c'est
temps.
Ça. Voilà. On dit toujours que ça a baissé, mais on recule à chaque fois.
Exactement.
Et en Europe, pareil, hein, j'ai l'impression.
En Europe, c'est un peu moins incertain. Il paraît qu'il y aurait au mois de juin, voilà, ça va. La première baisse de taux est attendue pour le mois de juin.
D'accord.
Avec après quand même un décalage derrière. Ils vont se donner un peu de temps.
Pour voir là, exactement. Ce qui se passe au mois de juin. Ok, oui, c'est bien.
Mais l'impact, en fait, est beaucoup plus important, évidemment, aux États-Unis.
Oui.
En Europe, c'est déjà acté, quoi. Maintenant.
Bon, cette semaine, Steve, de quoi as-tu eu envie de nous parler?
Du singe.
Du singe. Oui, non, mais pourquoi pas? Ben, moi, j'aime bien les bêtes, hein, y a pas de problème. Hein.
Alors, en finance, en fait, le cliché fameux du singe qui tire une fléchette sur un journal avec la liste des valeurs et qui fait au moins aussi bien que les gérants professionnels,
ouais.
Je trouvais que c'était intéressant et rigolo.
Ouais.
Et donc, en fait, on va essayer de regarder comment on peut améliorer nos chances dans un portefeuille de faire un petit peu mieux que le singe.
D'accord, voilà. Parce que c'est vrai que cela dit, moi il y a quelques années, je sais plus, j'avais lu un sujet là-dessus, c'était un trader qui était modeste pour le coup, et qui avait l'air de dire que finalement, bon lui il avait bien réussi, il touchait des millions, comme ça peut se passer quand ça marche bien, il avait l'air de dire que finalement bon, son boulot, oui il y avait des compétences, des connaissances, ceci cela, mais ça se résumait à un pile ou face qui penchait un poil plus, il suffit d'un pour cent plus que le pile ou face pour que ça y est c'est bon.
Pour que tu mettes beaucoup plus de chances de ton côté.
Voilà.
C'est tout à fait correct. D'ailleurs, c'est pour ça, en réalité, quand tu regardes, par exemple, dans le monde des traders, chez les anglo-saxons, tu n'as pas besoin d'avoir fait des maths ou de la physique pour être derrière un desk.
Ça joue au poker.
Non, c'est beaucoup de l'émotion. Mais c'est ça.
Ouais, c'est exactement ça.
Quoi.
Ouais.
Donc, le niveau de connaissances techniques que tu mobilises pour gagner de l'argent quand tu es trader, il est relativement modeste par rapport à ce que nous, on fait en France. La version française, il te faut faire des maths, des stats, de la physique pour accéder à ce genre de position. En Angleterre ou aux États-Unis, avec un diplôme d'histoire de l'art, tu peux faire trader. C'est vraiment l'individu. Non, mais
j'en connais.
Voilà, c'est ça qui est marrant, quoi.
Mais alors, ça t'embête pas d'être comparé à un singe qui tire des fléchettes?
Non, c'est pas la vérité.
Donc, comment faire mieux que le pile ou face et mieux que le total hasard, faire du 51% pour être gagnant? Comment on fait?
Alors, comment on fait? On essaie à tout prix, déjà, de limiter la volatilité dans le portefeuille.
Mm-hmm.
Pourquoi? On fait un truc très simple. Tu démarres avec 100 euros.
Oui.
Aujourd'hui, donc, on prend un horizon d'investissement de 2 ans.
Mmh.
Ok, illustration. Tu démarres avec 100 euros. À la fin de la première année, tu as fait 100%.
T'as bien fait, t'as bien travaillé.
T'as très bien bossé.
Même si c'était que 100 euros.
Même si c'est que 100 euros, tu passes donc à la fin de la première, tu as 200 euros.
Ouais.
Génial, super, bravo.
Ah ouais, c'est bien.
La deuxième année, tu perds 50%. Tu te dis, bon, écoute, j'ai gagné 100% l'année dernière, je perds 50% cette année, l'un dans l'autre, je m'en sors pas mal.
Ouais, mais en fait, non.
Et non, t'es revenu au point de départ. T'as rien gagné du tout.
Ouais.
Simplement du fait de la volatilité, tu vois. Alors, il faut absolument construire le portefeuille pour essayer de compresser au maximum cette volatilité, de sorte que tu puisses ressortir avec une performance positive année après année.
Mais alors, comment tu fais pour compresser un peu la volatilité?
Trois grandes pistes.
Ouais.
Trois grandes pistes. Déjà, comme dit le dicton, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu diversifies ton portefeuille par grande classe d'actifs.
D'accord.
Premièrement, du monétaire, de l'obligataire, des actions, des matières premières, du private equity. Toutes ces choses ensemble le plus possible, de manière à ce que tu diversifies déjà ton risque au niveau de ta structure de portefeuille.
Ouais, parce que tout ne peut pas se casser la gueule en même temps, sinon c'est la fin du monde.
Précisément. Alors, ça a eu arrivé que tout soit chahuté. Mais pour dire les choses simplement, tu as quand même une meilleure chance quand tu as un portefeuille structuré comme ça que si tu es concentré à 100% action, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, normalement, dans des conditions de marché, on va dire habituelles, entre guillemets, parce que on peut discuter des siècles pour savoir si ça existe, des conditions habituelles de marché, tu as ce qu'on appelle en fait la corrélation entre les classes d'actifs qui va venir te protéger, à savoir que quand l'une monte, l'autre baisse et vice-versa.
Mais, ce que tu dis, je comprends, mais du coup, ça limite aussi les possibilités de gain.
Absolument.
Donc, tu lises par en dessous, mais tu lises par au-dessus.
Oui, mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que très bien, tu feras jamais aussi bien, par exemple, qu'un marché action en phase de hausse, mais comme on l'a dit dans l'exemple tout à l'heure, le marché action, si tu ne fais rien et que tu perds 50% la deuxième année, tu ne gagneras rien. Alors que sur ton portefeuille, tu vas gagner, même si ce n'est pas aussi spectaculaire, tu vois. Et à ceux qui vont dire, oui, mais moi, quand j'ai gagné 100 euros, je sors du marché, je les réinvestis ailleurs. Encore faut-il être certain ou plus ou moins certain de savoir quand sortir du marché
et là où tu réinvestis.
Parce que là, les statistiques non plus ne sont pas du tout en ta faveur. Tu regardes ce qui s'est passé sur les, je crois que c'est les 20 dernières années, aux États-Unis, même dans tous les marchés, c'est pareil. Si tu investissais sur le marché américain le 1er janvier 2000, et que tu regardais ce que tu avais à la fin des années, enfin 2020, grosso modo, si tu loupais, t'as à peu près en moyenne, je crois que c'était sur la période entre 6 ou 7%.
Bon. Par an ?
En moyenne. Si tu loupais les 10 meilleurs jours de, de hausse, les 10 meilleurs sur une période de 20 années boursières, tu coupes ta performance en deux. Et si tu loupes les 20, t'es à zéro. Donc, tu n'as pas intérêt à te tromper quand tu sors du marché. Donc, tous ceux qui disent on va capturer la plus-value, etc., je demande à voir.
Parce que quand quelqu'un, une action, c'est sur les actions, prend de la valeur, c'est quoi ton risque si tu revends trop tôt, à la limite ? Il n'y a pas, pas de mal. Tu ne gagnes pas autant que ce que tu aurais voulu, mais tu gagnes quand même.
Oui, tu gagnes quand même, mais tu dois réinvestir. Ou tu laisses en cash. Mais ce n'est pas une solution. Sur le long terme, tu ne peux pas.
Ça ne rapporte pas,
Voilà. Donc, moi, je préfère, à la rigueur, si tu veux, laisser courir les gains le plus longtemps possible. Parce que même si ça se replie, il y a quand même peu de chances que tu retombes jusqu'au niveau où tu as acheté.
Niveau de départ,
Voilà. Donc, effectivement, ça va être en ciseaux, mais tu as une tendance derrière. Tu vois ? Et après un certain nombre d'années, en fait, quand tu as bien capitalisé, tu es plus ou moins protégé. Tu vois ? Bon. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Après, nous, comment on fait pour choisir ? Ça, je l'en avais déjà parlé un petit peu dans les émissions précédentes. On a une grille de lecture propre qu'on met à jour régulièrement. Tu te rappelles les fameux 6 secteurs qu'on suit ?
La sécurité,
tout ce qui est...
Les data, la robotique, l'espace,
le spatial, super, magnifique. Et donc, si tu veux, déjà, ça nous aide à comprendre ce qui se passe. On se forme une grille de lecture plus géopolitique, donc des tendances qui sont beaucoup plus lourdes, qui ne sont pas aussi volatiles que des prix de marché, pour choisir et structurer les portefeuilles. Et ensuite, on diversifie selon les 3 niveaux dont on a parlé, à commencer par les classes d'actifs. Ensuite, on passe au niveau des gérants, parce que là aussi, il faut faire attention. Aujourd'hui, par exemple, tu peux très bien dire, j'ai mon portefeuille, il est très bien diversifié, j'ai 5 classes d'actifs, mais si tu as un seul gérant par classe d'actifs et qu'il y a un problème au niveau du gérant, ce qui peut arriver, t'es exposé.
D'accord.
Donc, on limite volontairement l'exposition à un gérant, de sorte qu'on a un portefeuille qui est beaucoup plus important.
Aucune pièce qui est
plus de 5%.
Trop lourde, voilà.
Ouais, exactement. D'accord. Parce que ça aussi, c'est un des aspects très importants dans le succès d'une stratégie. C'est pas seulement le timing, c'est combien tu vas risquer aussi. Parce que si tu risques la maison en un seul coup, même que tu sois sûr du timing, etc., et que ça marche pas pour une autre raison qu'une raison de marché, par exemple, le gars se tire avec la caisse à l'autre bout du monde et... j'avais raison, mais il y a un problème.
Il est parti.
Voilà. Donc, ça va pas. Donc, tu limites aussi ce risque-là. Et puis, in fine, tu vas choisir aussi quel type de gérant. C'est pas juste le gérant, mais quel type.
C'est-à-dire ?
Alors, est-ce que tu prends un fonds qu'on appelle long only ? C'est-à-dire où la personne.
Long terme ?
Non, c'est tu vas simplement avoir un portefeuille. Donc, tu vas acheter et tu vas gagner si la valorisation de chacun des titres du portefeuille augmente.
Oui.
Où tu prends un gérant qui est de ce qu'on appelle performance absolue,
oui.
où lui va gagner, que ça monte ou que ça baisse. Parce qu'il va être
oui.
capable de protéger son portefeuille et voire même de s'exposer à une baisse des marchés pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert, par exemple. Oui, tu vois, c'est lié.
C'est-à-dire que tu t'achètes à terme.
Alors, tu achètes une protection en même temps. Alors, tu gagneras jamais, ce qu'on disait, autant que lorsque tu es exposé à 100% à un marché qui performe très bien, puisque par définition, ta protection va te coûter en performance.
Voilà.
En revanche, si le marché se retourne, ta protection va te faire accumuler de la valeur. Tu vas perdre sur tes positions longues, qu'on appelle, mais tu vas aussi gagner sur le reste. Donc, tu te protèges. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que pour reprendre l'exemple précédent, au lieu de faire plus 100, moins 50, tu fais quelque chose de beaucoup plus régulier.
D'accord.
Et donc, c'est une manière de sécuriser, de protéger ta performance.
Oui. Et dans quelle mesure, tu sais, par exemple, là, je pense à des trucs catastrophes climatiques, là, les inondations, je ne sais plus, j'ai vu ça où, là. Donc, des assurances qui disent, écoutez, à un moment donné, votre maison, on ne va plus l'assurer, hein, elle est inondée tous les deux ans. Ou alors ça serait des primes tellement énormes que ça vaut mieux déménager tout de suite. Donc là, dans quelle mesure le gérant il peut se couvrir, il peut pas se couvrir complètement, c'est même pas dans son intérêt de son gain.
Alors ça coûte très peu cher en réalité.
Ah oui.
Parce que justement, tu le mentionnais tout à l'heure, la plupart du temps, il se couvre en utilisant des marchés à terme.
Ouais.
Ou alors par exemple, pour prendre une exposition de 1 million d'euros, il suffit qu'il mette 10% sur la table.
Ouais,
tu vois, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de cash.
Le million,
tu vois. Et son portefeuille, en fait, son portefeuille de titres longs, des actions, etc., il est valorisé à 1 million d'euros.
Ouais.
De l'autre côté, il prend une couverture en nominal pour 1 million d'euros
en
mobilisant simplement 10% de cette valeur.
Ouais, d'accord. Sauf que si tout se croûte, c'est 100% qu'il faudra qu'il sorte, non ?
Ben non, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que si ça va à
l'autre sens, ouais.
il faut qu'il roule sa position, qu'il enregistre une perte, en fait, sur sa couverture. Imagine, le marché remonte, lui, il vend dans sa couverture. Donc, il perd,
si
tu veux, mais il roule sa position. C'est-à-dire que tu vends le contrat que tu avais, tu en rachètes un autre.
D'accord.
Donc, tu payes ce que tu dois payer, t'as perdu, ok, ça t'a coûté, jusqu'au moment où c'est le contraire qui se passe.
Oui.
Et comme t'es protégé, t'as 1 million à gauche, 1 million à droite, voilà. C'est comme ça que tu te couvres.
Okay.
Et ces gérants, en fait, c'est très intéressant dans des constructions de portefeuille parce que ça permet de lisser la volatilité. Voilà.
Eh oui.
Donc, tu feras plus, par exemple, que du cash.
Mm-hmm.
Très bien. Mais tu feras jamais autant que 100% action. En revanche, si tu combines du cash, de l'obligataire et des gérants à performance absolue avec un petit peu de gérants long only, c'est-à-dire qui gagnent quand les marchés montent, et là, en moyenne, tu peux ressortir avec une performance qui reste très intéressante et surtout qui est bien moins sujette à fluctuation.
Ouais. D'accord. Voilà pour un des aspects hein, pour être meilleur que le singe, je vous tire la flèche. Notamment. D'autres pistes, d'autres astuces, Steve ?
Alors, d'autres astuces, je pense là que la grille dont on a parlé est très, très importante.
Ouais,
c'est vraiment la matrice de ta pensée. Quoi. C'est parce que si tu veux investir, c'est quand même sur du temps moyen long. On ne fait pas de trading, hein, attention, c'est très différent. Et là, sur ce genre d'horizon temporel, en fait, les tendances géopolitiques, géostratégiques ou économiques de développement de long terme, elles vont te porter. C'est un peu le principe du surf. C'est-à-dire, si tu t'exposes aujourd'hui, en fait, à des tendances comme ça, il y a quand même beaucoup plus de chances que, in fine, tu gagnes de l'argent. Parce que tu as quand même une certaine visibilité. Tu vois, bon, après, le monde reste imprévisible, mais on n'est pas, en fait, dans la lecture de la boule de cristal. Tout ce qu'on cherche à faire, en réalité, c'est améliorer nos chances. Tu vois. Et de ce point de vue-là, je trouve que cette grille de lecture, elle nous aide beaucoup, en fait, à nous positionner. Parce que c'est un fait de choisir les classes d'actifs, c'en est un autre de choisir quel gérant, quel secteur. Là, on se dit, on va prendre, on parlait de l'économie maritime, on va regarder un gérant qui est spécialisé, par exemple, sur les sociétés qui exploitent ou qui se positionnent elles-mêmes sur cette économie-là. Tu vois, donc ça, c'est intéressant.
Là, tu parlais du trading, mais par exemple, les gens qui font des achats, des reventes sur une journée ou sur quelques heures, ils se couvrent aussi quand même, non ? Il n'y avait pas d'intérêt à se couvrir ?
Non, pas sur des périodes comme ça. Parce que justement, le trading, c'est que tu prends un risque. Tu assumes ta position.
Ouais, mais quand tu es professionnel, tu prends un risque avec l'argent des autres. Donc, il faut que tu te couvres un peu quand même, non ? Non, pourquoi faire? Ah bon, d'accord, okay. Non, d'accord.
Non, mais d'accord. Non, mais voilà, l'idée, c'est ça, effectivement. Non, tu te couvres en général quand tu fais une gestion parce que tu as un portefeuille à protéger, mais c'est pas sur la journée, ok? Soit parce que tu as un intérêt économique à le faire, par exemple. Tu sais, l'histoire des marchés à terme sur les céréales, par exemple, qui remonte à des siècles, c'est parce que justement, les agriculteurs, ça leur permettait de vendre à terme leur récolte avant qu'il ait fait. Tu vois? Mais ça, c'est, voilà. Parce que derrière, t'as un intérêt économique à le faire. Quand tu veux faire du trading, tu prends une position, alors souvent beaucoup plus risquée, au contraire, parce que tu la prends en levier, avec effet de levier.
Ouais. C'est-à-dire que tu mets 10, mais en fait, tu mets 100.
Ouais, exactement. Et là, voilà, tu la gardes sur très, très peu de temps.
D'accord.
T'as aucun intérêt à te couvrir.
T'as aucun intérêt à te couvrir. Ok. Parce que ce qui ressort de ce que tu me dis, c'est globalement, pour avoir un gain, bon, il faut se couvrir, faire attention, etc. Mais il faut prendre quand même un risque.
Il faut prendre un risque. Voilà.
Par contre, si on fait n'importe quoi, on perd forcément.
Pas nécessairement.
Même pas. Ouais, même pas.
Pas nécessairement. Tu n'es pas obligé de perdre, mais tu vas quand même être soumis, je pense, à beaucoup plus de volatilité. Tu vas pas t'échapper du même problème, en fait.
Oui,
tu vas retomber dans un cadre qui est celui des 100, 200 et 0, enfin 100, où là, tu vas te dire, en fait, quand tu fais ce que tu dis, ta vraie problématique, ça va être de savoir quand est-ce que je vais sortir.
Voilà, quand est-ce que j'arrête.
Et ça, c'est un problème quasi insoluble. T'as pas les meilleures chances, en fait, de gagner de l'argent en faisant ça.
Mais alors, toi, avant de conclure bientôt, dans cette émission, ça va, on n'est pas encore trop long. À un moment donné, il est bon de revendre. Pour prendre ses gains, je ne parle même pas de besoin. Non, toi, tu ne revends jamais.
Non, moi, j'arbitre.
Mais à un moment donné, après qu'on regarde ces feuilles avec tout ce qu'on a comme action, c'est sympa, c'est joli, mais tu n'as pas envie d'en profiter?
Non, regarde ce que fait quelqu'un comme Warren Buffett.
Oui.
C'est rare qu'il revende une position qu'il a achetée.
J'sais
pourquoi
pas. Ouais.
Mais parce que tout simplement, la société ou la compagnie qu'il a mis en portefeuille, c'est une société qu'il considère comme excellente, qui lui donne satisfaction, qu'il a acheté à un prix très compétitif. Pourquoi est-ce que tu irais revendre un truc comme ça?
D'accord.
Sans prendre l'exemple de Warren Buffett, quelqu'un aujourd'hui qui a un portefeuille d'actions qui lui paye des dividendes corrects, mais il n'a aucun intérêt à le changer.
Même pour faire quoi? Mais jamais toi tu te dis... Alors, tu avais fait une réflexion d'un trader du début du XXe siècle, il y a quelques temps. Il est jamais trop...
Livermore.
Jamais trop...
Jesse Livermore.
Jamais trop cher pour acheter, jamais trop...
Mais lui, il faisait pas de l'investissement.
Ah oui.
Lui, il faisait beaucoup plus du trading. Ouais. Et donc, il suivait, en fait, les tendances. Rappelle-toi un autre célèbre dicton des marchés, « The trend is your friend ». Donc, la tendance est ton ami.
Oui, il faut suivre la tendance.
Exactement.
Il faut pas essayer de faire le malin.
Voilà. Mais non, moi, j'arbitre très peu les portefeuilles parce que aussi, sur l'horizon d'investissement des clients, qui est généralement d'une dizaine d'années, il faut que tu fasses attention aux coûts.
Quand tu arbitres
un portefeuille, ça coûte.
Ah oui, bien sûr.
Alors, tu vas arbitrer un portefeuille que s'il y a un changement dans la structure patrimoniale du client qui justifie une autre structure de portefeuille.
D'accord. Ah oui. Tu fais ça seulement
parce
il y a un changement de la part du client, pas de l'entreprise.
Pas de l'entreprise. Parce que nous, ce qu'on essaie de faire, ce sont des portefeuilles résilients.
Ouais, je comprends.
Tu vois, qui s'adaptent aux conditions de marché.
D'accord.
C'est pour ça que d'utiliser des gérants à performance absolue, c'est vraiment intéressant.
Bon, écoute, Steve, merci beaucoup encore pour toutes ces informations, ce savoir partagé et cet aspect animalier.
C'est absolument ça.
Sur CFM, c'est très bien. Bon, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, tout à fait.
Allez, bonne semaine à toi.
Ciao, David.